CO2 Mon Amour, avec le WWF. Construisez un avenir où l'homme vit en harmonie avec la nature. Plus d'infos sur les dons, legs et assurances vie sur www.fr.
Là, vous goûtez un pinot noir, un grand cru. Élevé en barrique, 2011.
Mais qu'est-ce qu'on se fait chier à élever des vaches? Parce que nous, on est dans les vaches. Hein? Alors que si on avait... Si on faisait du vin comme vous, eh ben, on serait riche. Non, nous, vraiment, on est les cocus de l'agriculture.
Allez, grand fils.
CO2, mon amour.
Je peux vous poser une question? C'est vraiment con, cool, c'est
allé. Eh, ça ne va pas qu'une vache.
Denis Chisson.
Depardieu et Paul Vord, c'était au Salon de l'Agriculture. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, mais bien sûr, non pas navigation. On vous souhaite le meilleur si vous êtes sur la route. Donc, prenez votre temps avec cette émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec Kevin Pelot et Pauline Laverdure, la bien nommée pour une émission sur l'écologie à la technique, et assistée de Camille Blanès et Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Émission qui commence toujours par une petite humeur. Alors il y a quand même quelques raisons de se réjouir dans le camp des Donald américains. Rien qu'avec cette petite nouvelle, alors, elle date de novembre dernier, mais je l'ai repris, j'avais pas eu le temps de vous en parler. La référence mondiale des carnivores moyennement regardant sur leur pitance, McDonald's pour ne pas le citer, réclame la bagatelle de près de 18 millions d'euros de dommages et intérêts à la ville de Florence parce que son maire lui a refusé l'autorisation d'ouvrir l'un de ses restaurants sur la célèbre place du Dôme. 24 000 Florentins ont signé une pétition contre l'installation en soutenant leur maire qui était contre, plus un pique-nique géant, plus les réseaux sociaux qui s'y sont mis. La place de Michel-Ange, la ville de Michel-Ange estime en effet que sa fameuse Piazza del Duomo, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, peut se passer de l'image de bon goût véhiculée par l'empereur du fast-food. Ça vous aurait pas un petit goût de, un avant-goût de CETA, hein, tout ça? Entreprise qui pourrait attaquer les villes ou États qui les empêcheraient de gagner de l'argent honnêtement. Ces Italiens, quand même, ils ont envahi le monde entier avec leur pizza et voilà qu'ils refusent à une toute petite multinationale le droit de distribuer des acides gras saturés aux touristes venus s'enivrer d'art florentin. Décidément, la concurrence libre et non faussée, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde en Toscane. Mais heureusement, début janvier à Rome, à deux pas de la cité et de la place Saint-Pierre, malgré l'opposition de plusieurs cardinaux et restaurateurs de quartier, eh ben l'État du Vatican a autorisé, avec sa bénédiction, l'installation d'un McDo. Il manquait en effet à cet endroit un fleuron culturel. Loyer 30 000 euros par mois, amen. Et quand même dans notre actualité. Mais je vais revenir sur la semaine dernière. Bah oui, parce que ça a pas mal chauffé. C'est intéressant. Mais t'es encore là, toi? Ah, le vilain compteur Linky. Hein, qui m'a servi à rien pour compter les 250 mails reçus après l'émission de la semaine dernière. Ben oui. Alors, résultat des courses, il y a ceux qui considèrent que vous êtes un suppôt d'EDF, du grand capital, et que ce fut 30 minutes de propagande pour Enedis. Ceux qui disent que vous êtes un levier du techno-fascisme institutionnalisé.
Mais ce fut, mon cher Denis, dit bien entendu, aboyé avec douceur, avec empathie, bienveillance et sans excès.
Non, aucun problème. Et alors, quand je racontais donc des trucs comme ça, vous savez, à Jean-Marie Pell, ça me rappelle ça comme histoire, sur des émissions qu'on avait pu faire sur OGM, pesticides, déchets nucléaires, Sivens, Notre-Dame-des-Landes. Enfin, je passe de la chimisation de la société et des meilleurs à une époque où on en parlait fort peu. Alors ça le faisait rire, après il ajoutait assez malicieux. Bon Denis, alors tu mérites au moins la crucifixion, mais en attendant, tu nous resserres un verre de vin. Voilà, c'était un peu comme ça de temps en temps qu'il le prenait. Alors il y a eu aussi ceux qui ne comprenaient pas pourquoi Stéphane Homme a eu autant la parole. Bon, il y a eu plein de choses, mais la majorité des mails étaient des interrogations. Émission bien sûr incomplète, imparfaite, qui ne pouvait satisfaire ni l'international complotiste anti-compteur, ni les zélateurs de la main très visible du marché, ni les comités anti-Linky. D'ailleurs, certains d'ailleurs sont manifestés très positivement. Ce que l'on constate, c'est que c'est un enjeu, cette affaire-là est un enjeu environnemental, sociétal, démocratique, de santé, et donc aussi un enjeu politique, Frédéric Noé.
Ben oui, c'est un enjeu politique parce que l'autoconsommation, c'est un projet démocratique, mais c'est un projet démocratique qui ne peut se faire que, que par une surveillance des gens, une surveillance de notre consommation par des entités extérieures. Donc ce projet démocratique est assis sur quelque chose qui est un peu autoritaire, c'est-à-dire la surveillance généralisée. C'est tout le paradoxe qui peut hériter et qui est symbolisé par le compteur Linky.
Alors, le seul mérite, c'est peut-être d'avoir posé le paquet cadeau Linky sur les ondes nationales dans vos oreilles. Cadeau qui arrive chez vous à marche forcée via des sous-traitants payés au compteur, dont, dit-on, certains cow-boys se seraient inspirés de leur méthode quand ils sont arrivés dans l'Ouest américain quand même. Ah bah oui. Alors l'auditeur France Interien que vous êtes, il est grand, il s'informe, il poursuit sa recherche, il gueule, il apprécie, il s'engage, il soupèse. Et si la citoyenneté y gagne un petit peu, alors nous n'aurons pas perdu de temps de service public avec ce débat. Et pour poursuivre un tout petit peu, si vous voulez, je prends un petit pas de côté quand même sur ce thème-là avec Marc Giudisca. Et Marc Giudisca est le président du CLER, le réseau pour la transition énergétique. Ils ont travaillé aussi sur ce compteur Linky. Alors Marc Giudisca, en fait, une question. Est-ce que pour la transition énergétique, on a besoin d'un compteur comme ça, communicant et qui compte?
Alors, on a besoin de compteurs, on a besoin de compter et de savoir ce qui se passe sur le réseau. C'est pas pour autant qu'on a besoin absolument d'un compteur communicant. Chez chaque personne, dans chaque foyer, les 34 millions de compteurs ne sont pas obligatoires. Ceci dit, ils peuvent avoir un certain intérêt, ils peuvent avoir des plus. Mais le problème, c'est qu'on s'est un peu posé la question à l'envers avec Linky. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire cette généralisation des compteurs communicants avant de se poser la question de quoi on a vraiment besoin. En gros, il n'a pas été conçu pour la transition énergétique. Il a été conçu par Enedis pour ses besoins propres, qui sont en grande partie respectables, hein, c'est pas la question. Et surtout, après, on n'a pas été plus loin que ça. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui.
Alors, Marc Giudisca, où doit-on véritablement poser des compteurs pour compter plus intelligemment?
Première chose très importante, le réseau, c'est déjà une intelligence en soi. C'est parce qu'on mutualise, c'est parce qu'on partage avec son voisin, c'est parce que au niveau du village, du canton, du quartier, de la ville, etc., on a cette logique de solidarité entre tout le monde. Et c'est très efficace, un réseau électrique. Si on ne l'avait pas, il faudrait multiplier par 4 ou 5 la puissance installée. Et donc c'est au niveau de la boucle de distribution, donc on va dire tous les consommateurs, que ce soit des foyers, que ce soit des entreprises, que ce soit des écoles ou n'importe quoi, qui sont raccordés sur un même transformateur, le dernier transformateur avant chez vous, hein, qui fait du 240 volts pour vous amener à la maison, eh bien c'est tous les gens raccordés sur cette boucle-là. C'est là qu'on a de l'intelligence collective à développer et c'est là qu'on peut être vraiment, vraiment efficace et c'est là qu'on peut aller vraiment vers la transition énergétique.
C'est-à-dire que pour vous, le vrai problème, ça a été la généralisation de ces compteurs. Et on a bien compris qu'en Allemagne, on avait installé ces compteurs au-dessus d'une consommation personnelle de plus de 6000 kWh.
Oui, ce qui est une consommation relativement importante, mais ça veut dire que c'est des gens qui ne consomment pas, notamment qui n'ont pas de chauffage électrique. Parce que quand on se chauffe électrique, on est tout de suite au-dessus de 10 000, 15 000, voire 20 000 kWh. Et comme en Allemagne, il n'y a pas de chauffage électrique, ce plancher, on va dire, en dessous duquel on n'est pas obligé d'avoir un compteur communicant, en fait, ça exclut la totalité des particuliers. Après, ils peuvent vouloir avoir un compteur communicant, par exemple pour avoir accès à des offres un peu particulières, malines, qu'il peut y avoir sur le marché, mais c'est pas une obligation.
Marc Giudisca, si demain, moi je suis producteur aussi donc d'électrons, il va quand même bien falloir que ça compte dans les deux sens, quoi, entrée, sortie.
Alors c'est un des avantages, on va dire, du Linky tel qu'il est, il sait compter dans les deux sens, donc ça a été dit d'ailleurs dans le dialogue de la semaine dernière, ça va coûter moins cher. Ceci dit, il y avait des compteurs sur le marché qui existaient déjà et on n'aura pas eu besoin de développer Linky, mais on va dire c'est au crédit de Linky, ça c'est quelque chose qu'on peut apprécier parce que la logique je produis et je consomme d'un côté, il n'y a pas de raison qu'on soit pénalisé pour ça, c'est vraiment une logique transition énergétique.
Marc Giudisca, donc le vice-président du réseau pour la transition énergétique, donc du CLER, et si vous tapez Linky CLER ou bien même si vous allez sur le site de CO2 Mon Amour, vous aurez la note complète de la position donc, du CLER et de ce réseau sur le compteur Linky. Frédéric,
il a parfaitement raison. Le CLER, j'ajoute une chose, Linky n'a aucun intérêt s'il ne vous affiche pas, si vous ne regardez pas ce que vous consommez heure par heure, quart d'heure par quart d'heure, et si dans l'avenir...
Ce ne sera pas le cas dans un premier temps.
Ce ne sera pas le cas, mais c'est le cas à Londres. Il y a des compteurs Linky à Londres, et là, il y a un affichage sur le compteur, donc c'est un peu étrange qu'on ne l'ait pas en France. Si vous voulez moins consommer, il faut voir ce que vous consommez, là, vous ne le verrez pas. Donc c'est un peu bête. Et la logique, c'est ça, et de voir ce que vous consommez appareil par appareil. Mais ça, ce sera plus tard.
Bon, de toute façon, on vous le dit déjà, ce qui vous consomme le plus chez vous, c'est comme tout le monde, c'est le frigo.
l'eau et c'est le congélateur. Hein. En gros, c'est à peu près ça.
Voilà. Le sèche-linge, je disais pas mal.
Le sèche-linge aussi, mais ça, oui, mais c'est pas en continu. Donc c'est un
oui,
peu,
c'est pas en
c'est
continu.
Un petit peu différent.
Ah zut, j'ai pas arrêté mon sèche-linge.
Juste avant de passer à la suite, est-ce que vous vous êtes fait arracher un cheveu pour voir s'il y avait des tas de saloperies, des pesticides, des perturbateurs endocriniens dedans, comme Hulot et les autres?
Oui, j'ai fait arracher tous mes cheveux d'ailleurs.
D'accord, donc c'est ça.
C'est chargé. Hein.
C'est parfait. Juste une bonne nouvelle aussi. La santé attendra question perturbateurs endocriniens, parce que pour conclure le traité de libre-échange avec le Canada, l'Union européenne a revu à la baisse ses propositions de réglementation sur les pesticides. Youpi, tout va bien, j'espère que vous êtes en forme. Notre première chanson, c'est Pigeon John, oui, ou alors John Pigeon, comme vous voulez.
Set up. That's what I like. That's what I need. Just what I want. So give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Catch your brain, you know I love the chain, so hit the throttle. That's what I like. That's what I need. Just what I want. So give it to me. Give it to me. Give it to me.
Je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Et pour te la gestionner, je te l'ai gestionné, la nature, par chez moi. Faut les voir, mes 400 hectares. Comme c'est propre. C'est nickel. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes, tous ces petites saloperies. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une herbe, plus un animal. Rien. Avec le Xerox 3000.
CO2, mon amour.
Ah, ça te nettoie tout.
Denis Chessoux. Sur France Inter.
Et nous allons parler d'agroforesterie. Oui, dans cette émission, vous n'allez pas forcément entendre beaucoup parler, je vous le disais, au Salon de l'Agriculture, mais c'est quand même en train de monter. Un mot qui est relativement récent, Frédéric Danhé, donc, qui connaissait ces sujets environnementaux aussi.
Oui, c'est un mot qui date des années 70, qui est né au Canada et qui est devenu le terme très technique, parce qu'il faut employer des termes techniques pour désigner l'arbre paysan, l'arbre dans la campagne, et qui n'est pas donc l'arbre dans la forêt. C'est l'arbre qui est aligné, c'est l'arbre qui est tout seul, c'est l'arbre dans la campagne.
Voilà, donc ça c'est le préambule. Voilà. Maintenant, allez, c'est parti.
La balade de Denis Chessoux.
Alors là, on est quand même face aux Pyrénées, on les a dans la paume de la main.
on voit quand même au premier plan vos arbres qui vont non seulement ne pas empêcher le rendement, mais qui vont l'améliorer, quoi.
Mais forcément, surtout dans un système où il y aura un élevage, quel que soit le type d'élevage, ouais. Par déjà l'ombrage, il fait très chaud en ce moment. N'importe quelle bête va profiter que si elle a un peu d'ombre.
Bien sûr.
Non seulement on va fertiliser, nourrir nos sols, on remet de la biodiversité, on met de l'ombre pour tout ce qui est élevage. En plus, on crée un volet paysager, je veux dire, ouais. Super agréable. Et ce qui est important, c'est de se sentir bien dans sa tête chacun.
On a le pic du Minier de Bigorre là, qui est juste à côté, avec ses plus de 2800 mètres de mémoire. Vous êtes aussi donc de nouveau des fabricants du paysage les uns les autres. C'est la conséquence
de
refabriquer un paysage.
Oui, par ces pratiques, on refabrique un paysage qui plaît là, à l'unanimité à tout le monde.
Et où qu'il est le bonheur ? Eh bien oui, il est dans le pré, mais avec des arbres. Des arbres, vous savez, donc c'est un machin en bois vaguement décoratif qui sert à rien d'autre qu'à se chauffer, à fabriquer des meubles, c'est rempli d'oiseaux qui chient sur les voitures. Bon, voilà, ça s'appelle un arbre. Non, évidemment que ce n'est pas que cela. On va parler donc d'agroforesterie dans un très joli département, donc le département du Gers, celui des Comtes d'Armagnac, avec du collinaire, des mamelons de terre. On a un peu l'impression qu'un géant, si vous voulez, un petit peu roulé ses crêtes entre ses doigts et creuser les vallées avec son index. Voilà. Et c'est aussi malheureusement un pays donc qui souffre actuellement de la grippe aviaire, parce que tourisme culinaire, ça rime pas très bien avec ça, avec agriculture. Alors on connaît Nogaro, Marcia, Cologne, Vic, Lectoure, bref, nous sommes en Gascogne. Et vous avez entendu alors à la fois Jacques Delozo, que vous allez retrouver donc du côté de Saint-Mathan, il est à Noyant, et Alain Canet, qui est le président de l'association française d'agroforesterie, qui se trouve à Auch. C'est aussi le directeur de Arbres et Paysages 32, donc une association avec 800 agriculteurs. Mais alors ça concerne tout le monde, l'agroforesterie, ça va aussi bien, si vous voulez, les grandes cultures, les vignobles, les fonds de vallée, les sommets des collines, le bio. Et il s'agit en fait de renforcer son capital sol. Alors, un plan national de l'agroforesterie a vu le jour, des mesures aussi pour couvrir avec du végétal, donc le sol, ne pas laisser le sol nu également. Et donc, on va parler de cela avec Alain Canet, Jacques Delozo et encore d'autres personnages. C'est parti.
On fait une agriculture qui n'est plus contre, mais avec la nature. Mais là, on va nourrir tout le monde, hein, parce que on va avoir du bois. Le cormier n'a rien à envier au meilleur des bois tropicaux. Mais juste derrière, il y a un pommier. À côté, là-bas, il y a des poiriers. Donc, on va produire des fruits. On va pas moins produire, hein, ces parcelles. Si on les laisse insolées comme ça, elles produiront plus rien. Si on les renforce en humus, en matière organique et en carbone, elles vont continuer à produire. Donc, la notion de production, on va pas produire moins. On va produire au moins autant, mais avec les arbres en plus. Et Christian Duprat, dans ses travaux à Montpellier, nous le montre bien, on a besoin de 30% de surface en moins pour produire quand on fait la mixité arbre et animal et arbre et culture.
Et regardez, Best, votre chien, où est-ce qu'il est ? Eh bien oui, il y a un arbre, donc il est planqué là.
Mais il est pas fou, il se met à l'ombre.
Après avoir levé le lièvre, il se met à l'ombre, il a raison.
Ah, hein. Et il attend.
Ouais. Il attend. Tu viens, Pépère ?
Donc, non, pardon, Best. Sur ce que dit Alain, c'est plus une agriculture qui dégrade, c'est une agriculture qui aggrade. Best, allez, on y va.
Pareil, vous avez eu aussi des Chinois, des gens de tous les pays, il n'y a pas longtemps ici, puisqu'ils sont venus voir votre méthode.
Oh oui, ça va, ça vient, ça passe. C'est, les gens viennent voir ce qui se passe. C'est juste une ferme où on témoigne de nos pratiques.
Oui.
On n'a pas la science infuse, mais on essaie de faire au mieux.
Alors, depuis combien de temps vous avez été converti, vous, à l'agroforesterie ?
Mais je suis né avec, je ne savais pas.
Ah oui ?
Je me suis rendu compte après coup. En fait, vous travaillez, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Et à force de chercher des explications, de discuter avec les gens et de s'informer, en fait, la solution elle est là, il faut aller s'informer chez des gens qui connaissent un peu quelques pratiques, et en prenant des informations à droite et à gauche.
Jacques Delozo, là je vois effectivement votre tracteur, mais vous ne faites pas de labour, en fait.
Les labours, c'est fini.
Ouais.
On ne travaille plus en profondeur. Cependant, dans ces démarches-là, et il y a un début à tout,
oui.
on a, durant des années, les générations précédentes et moi au début, on a pas mal maltraité la terre, on va dire. Donc, pour remettre en état ce sol qui a été vachement détruit, on va dire, où les haies ont disparu, où le bétail a disparu, il faut remettre tout ça en état. Et ça ne se fait pas en un an. Donc, fini les travaux en profondeur. Cependant, il y a quand même un travail superficiel. J'insiste sur le fait que moins on travaillera le sol, et mieux ce sera. Cependant, il y a un désordre. On va créer un désordre au début, quelques années, suivant les parcelles, pour remettre de l'ordre. C'est très difficile à comprendre, mais si on ne remet pas de la biomasse, si on ne remet pas de la biologie dans le sol, ça ne fonctionnera pas. Ouais. On ne peut le faire qu'en s'aidant, avec un travail au début, superficiel, en mettant des prairies, en mettant des légumineuses, en mettant des céréales. Là, je témoigne de mes pratiques. Je ne dis pas ce qu'il faut faire aux gens. C'est-à-dire, dans mes pratiques, j'utilise l'élevage et on va diversifier dans deux systèmes d'élevage en vente directe pour remettre nos sols en état. Certainement, il nous faudra quelques années pour remettre l'équivalent de ce que nos grands-pères connaissaient. Cependant, une chose après l'autre, on en est à remettre de la biodiversité dans nos sols. Ça ne peut pas se faire sans quelques bêtes. C'est plus facile, avec les fumiers, les déjections, les salives et les bouses. Ça se fera avec des haies champêtres et de l'agroforesterie. Parce que la lignine, on ne peut pas l'inventer. Et il nous faut des vers de terre et cette biodiversité. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Il faudra le temps nécessaire pour que ça réponde.
Que dites-vous aux gens lorsqu'ils vous disent « Ah, l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est ?»
L'agroforesterie, c'est remettre en état des sols qui fonctionnaient très bien jadis, au moment où il restait toutes ces champêtres et ces arbres, ces feuillus et cette biodiversité et cet élevage. J'insiste là-dessus. C'est remettre en état ce qui existait déjà. On n'a rien inventé. La définition du labour, c'est remettre en état, nettoyer une parcelle. Ouais. Il est évident qu'en retournant cette végétation indésirable, en le remettant en dessous, on ne la voit plus, et on repart sur une structure, une pseudo-structure.
Mais on aura cassé la vie organique.
On aura d'abord cassé le cycle de la vie organique, mais en plus, on va créer quand même du lessivage, on va créer pas mal de désordre, de l'évaporation, il ne faut pas oublier. Et l'habitat, cet habitat-là, est désorganisé. Si on s'imaginait que chez nous, on renverse la maison un peu tous les 6 mois, il va falloir tout réorganiser. Donc, ouais, à un moment donné, donc ça crée des dégâts. Bien sûr qu'un insecte mort, de la biologie morte, ça fait de l'azote. Mais quand il n'y a plus trop de volume, ça manque de plus en plus.
Lorsque l'on retourne, donc on renvoie évidemment du carbone en plus.
Ah oui, on éjecte 5, 6, 7, 800 kilos de carbone à chaque fois qu'on laboure ou qu'on passe un outil. Et si on passe 3-4 outils dans l'année, le bilan, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est que le bilan humique ou le bilan de stockage de carbone, je rappelle que le carbone, c'est quand même le cycle premier, c'est lui qui détermine le cycle de l'eau, l'azote, du phosphore, etc. Si le bilan carbone et le bilan humique, si on n'a pas laissé assez de matière organique et qu'on l'a évaporé par ce travail du sol un peu trop important, ben encore une fois, on fait descendre les taux de matière organique. Donc cette agriculture que fait Jack et que font les uns les autres, c'est aussi d'avoir des plantes en permanence. Hein. L'idée, c'est de dire, on laissait le sol nu pendant 6 mois se crever sous le chaud, se crever sous le froid et se crever sous la pluie. Aujourd'hui, avec ses couverts, avec ses prairies, avec ses intercultures, avec ses mélanges, ici, on n'a jamais eu autant d'abeilles que depuis que les sols sont de moins en moins travaillés, qu'il y a des plantes en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les champs de Jack, ici, vous voyez là-bas, j'ai un bois, au coin là-bas, j'ai un bois. Allez, ce bois, il va me faire 17 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Il va produire 17 tonnes de matière sèche. Ben, Jacques, dans ses champs, il essaie de produire 17 tonnes. C'est une agriculture qui est productive, mais c'est dans cette production-là, le bois laisse sa litière et restitue ses feuilles et ses branches. Ouais. Ici, on restitue des fumiers, mais surtout de la matière fraîche, qui sont des pailles, qui sont les couverts végétaux, au sol. On nourrit le sol tous les jours, et le sol bien nourri, ben il est travaillé tout seul.
Il ne faut pas se tromper d'arbres non plus, parce que vous avez des gens qui vont planter, même dans leur jardin, des arbres, puis ça ne va pas aller, parce que la pédologie, le sol ne va pas l'accepter.
Ah non, mais ça, oui, vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, dans le monde et en France, on a un arbre sur deux qui meurt et qui ne sert à rien, ou qui va végéter, ça va faire... Ah oui, non, mais c'est catastrophique. Planter un arbre, c'est extrêmement dur. Déjà, il ne faut pas l'arroser, parce qu'il ne met pas suffisamment de racines. Il y a un certain nombre de critères de paillage. Il faut impérativement le pailler au pied. Il faut le planter le plus petit possible, avec une bonne génétique. En plus, on est dans un contexte de changement climatique. Ah oui, là en plus en agroforesterie, donc c'est des arbres jeunes, c'est des arbres vieux, c'est la restauration des arbres têtards, c'est du bois mort, des mares pour que ça marche, des ronces, du lierre. Mais quand on va aller planter l'arbre au milieu du champ, on va planter à densité finale, donc on va en mettre 30, 40, 50 par hectare. On a intérêt à être le bon parce qu'on veut récolter des merises, on veut que les merises, le merisier nourrisse l'abeille, nourrisse l'oiseau et récolter du bois derrière. Donc, et on a du chevreuil, on a des tracteurs, il faut être très très rigoureux quand on plante un arbre.
Alors là, on est en train de marcher quand même dans votre parcelle, Jack. Et alors les arbres, ce sont lesquels là, que vous avez mis? Donc, vous avez planté quoi là?
Les variétés,
ouais.
Autochtones. Ouais. Courmier, alisier, noyer, chêne, frêne. Ce qu'on voit autour, vous tournez, faites le tour, vous avez les mêmes autour.
Ouais, c'est ça.
En plus, il y a une grande valeur ajoutée, parce qu'à terme, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est que les descendants, mon fils, les enfants de mes enfants, peut-être, eux, vendront des billes de bois. Voilà, et ça fait une plus-value. Non seulement ça a fertilisé, ça a mis de la vie et, dans nos champs, mais en plus, à
c'est
terme...
C'est votre engrais naturel, quoi, c'est ça.
Bien sûr. C'est un élément, c'est complémentaire voilà. De toutes les pratiques, et de ce qu'on peut ajouter aux champs et nos pratiques. Mais en plus, quelqu'un va exploiter ce bois à terme. Et on parlait de la biodiversité, mais il y a la faune sauvage qui quand même qui retrouve ses comptes. Vous voyez ces rangées d'arbres. Ouais. Là, on n'a pas le temps, mais on irait, on va lever deux liens, on va lever quelques lapins. Il y a des perdants qui couvent à la saison. Il y a de quoi se loger. Quand il y a une buse qui vient chasser, c'est là qu'elles vont se loger. Dans un champ nu, donc le lapin, il faut qu'il galope. La première, des fois, il fait un très long galop. Ici, tous les 22 mètres dans cette parcelle, il y a un toujours un refuge.
Ah, il y a un couvert pour lui.
Ça s'appelle un biotope.
Globalement, qu'est-ce qui vous plaît? Parce que vous donnez quand même du sens à votre vie de manière incroyable. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, ici?
Qu'est-ce qui me plaît? Non, je compterais plutôt de... Je regarde ce qui ne me plaît pas. Ça devient de plus en plus rare. Tout me plaît. Quand vous vous levez, vous êtes déjà au boulot. Et quand vous arrivez sur votre lieu de travail qui vous plaît, vous avez déjà gagné la moitié de votre journée.
T'en veux de la biodiversité, regarde.
Oh là là,
regarde,
là, là, là,
ça,
là,
ça
là,
va
là,
lever
là,
les papillons.
Regarde, partout, là.
De partout. Voilà.
Champ d'à côté, là, en face, rien.
Regarde,
nada.
Regarde, c'est blanc. Là, quand c'est blanc, c'est la roche-mère. Donc là, la matière organique, c'est pas 1%, c'est 0,1. Ça, on l'a vu cette année, hein, les têtes de tournesol, elles sont de plus en plus petites, on dirait des têtes d'épingles. Et moi, je veux pas, j'ai du mal à entendre. Alors, encore une fois, heureusement, on est dans un monde agricole, notre conseil d'administration, c'est les agriculteurs. Mais quand on dit l'année est pas bonne, non, toutes les années seront plus bonnes maintenant. C'est fini, les bonnes années. Les coups météorologiques nous feront beaucoup d'eau dans la gueule, nous ferons du grand chaud, du grand froid. Le problème, il est là, c'est qu'il y aura plus de bonnes années et les rendements vont sensiblement baisser parce que les sols ne sont plus là. Et là, on peut mettre toute la perfusion qu'on veut. La perfusion, elle part à l'instant T, elle part en direct.
Ouais.
Là, ce sol en face, là, on marche dans une luzerne qui est riche, qui stocke du carbone, qui fait de la vie. En face, là-bas, c'est en train de se cuire au soleil. Il fait combien aujourd'hui? Ils annoncent 30, je crois.
Oui, 35.
35, ils annoncent.
Oui.
Ah, là, on a une buse en plus. Allez, voilà, parfait. Donc là, elle a son territoire.
Donc l'idée, cette agroforesterie, c'est de dire, il faut laisser quelques zones sur lesquelles on ne produit pas. On pourrait voir, il y a du bourdon terrestre qui niche ici. Il y a quand même une quantité d'abeilles sauvages. C'est quand même des abeilles sauvages.
C'est le plus important,
la pollinisation. Elles vivent dans le sol. Donc si ce sol, il prend un coup de charrue sur la tête tous les ans ou deux fois par an,
l'abeille ne va pas aimer.
L'abeille ne va pas aimer. Donc on est là dans des zones de protection, toujours, dans cette dualité, protection, production en même temps.
Celui-là, tu me le trognes, comme ça on verra en fonction de la variété, on verra aussi. Alors, quand vous dites tu me le trognes pour les gens.
Ah oui, non, la trogne, c'est l'arbre tétard. C'est l'arbre. Voilà. L'arbre est été, une forme qu'on. Je ne sais pas si c'est les castors, mais non, c'est plutôt la foudre, la tempête qui a coupé l'arbre. Et l'arbre, il est pas tout à fait comme nous. Quand on le coupe, il repousse. Et l'arbre tétard, on le coupe en deux, il gonfle sa tête, il met ses réserves dans sa tête et il repart. Et c'est très intéressant parce que l'arbre tétard, mais il va produire beaucoup de bois. Alors on trouve les arbres les plus vieux du monde, c'est toujours des tétards. C'est des arbres qui ont été taillés, donc ça permet de relativiser beaucoup de choses, accompagnés par les paysans. Et l'arbre tétard, il a quand même une caractéristique incroyable. Il héberge énormément de biodiversité dans sa tête. C'est là qu'on va trouver le pic prune. C'est-à-dire au milieu du champ de Jack, on va trouver le pic prune, on va trouver la chouette, on va trouver la chauve-souris qui va réguler certains insectes ravageurs, mais surtout l'arbre tétard. Et ça, retenez bien ça. Essayez de le mettre en onde. L'arbre tétard, il va produire du bois sans qu'on le coupe jamais. Vous vous rendez compte?
Super.
Alors ça, c'est quand même balèze, quoi.
Des passionnés qui font du bien, mais ce n'est pas terminé. Non, on va poursuivre le voyage. On va aller rencontrer une ferme dite la ferme en coton. Vous allez découvrir cela. Frédéric, non, alors c'était 35 degrés, c'était pas la semaine dernière, j'ai tourné quand même. Parce que, mais ça nous fait du bien, je crois que c'est pas mal. Frédéric, non, et vous qui avez écrit « Cessons de ruiner notre sol », où vous expliquez bien que lorsque on tire le fil du sol, on a en fait tout le fil d'une société, que ce soit en urbanisation, en transport et aussi en agriculture. Peut-être déjà une petite réflexion, parce que en fait, ceci fonctionne. Oui, mais ne peut pas fonctionner quand même malgré tout partout, l'agroforesterie.
Non, c'est faut éviter les
sanctifications.
Voilà, les sanctifications, ça n'existe pas. Vous savez, l'arbre, certes, ses racines retiennent le sol, mais ce qui retient surtout le sol, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est le couvert permanent, c'est le couvert végétal, c'est le fait que même en hiver, on fait pousser quelque chose. Et en particulier, dans les milieux sans relief, sur les terres superficielles, sur les terres lourdes, crayeuses, comme celle de Champagne, on le voit bien, ce qui retient, ce qui évite l'érosion, c'est bien les culture permanente, c'est bien le couvert permanent, beaucoup plus que l'arbre. Et donc c'est une association entre les deux. L'arbre ne se suffit pas à lui-même, l'arbre ne peut pas être planté partout de la même façon, une haie ici c'est pas la même haie là-bas, tout dépend aussi de la coupe, et puis c'est son association fondamentale avec l'agriculture et avec l'herbe, faut jamais oublier ça. L'agroforesterie, c'est, comme disent certains, une complantation. C'est une plantation avec une autre. C'est la plantation d'un arbre, sa taille, sa coupe, avec la plantation agricole traditionnelle. C'est les deux qui sont liés.
Nous allons poursuivre ce voyage en musique, évidemment, avec un homme du cru. Bon, vous le connaissez.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là, êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi. Descendait quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
Choisis avec Muriel Pérez, notre programmatrice, le chêne liège, Francis Cabrel sur France Inter, CO2 mon amour, on parle d'agroforesterie, oui, il y a les oiseaux qui sont là, on est dans ce très beau département du Gers, et on va poursuivre le voyage. Bah, tenez, on va s'intéresser mais donc à une ferme qui s'appelle la ferme en coton, c'est son nom, ouais, la ferme en coton, et on n'est pas loin de Hoche, et on va rencontrer Nicolas Petit et Anne-Catherine Petit.
Pour les cochons, là, j'aurais un peu de son de vous, là, s'il vous plaît. Non, mais là, vous regardez le micro, mais non, bouffe pas le micro. Voilà. Encore un peu. Non, mais c'est pour montrer que c'est vrai. Vous êtes des vrais cochons. Des choses à dire sur, je sais pas, moi, les primaires, sur les arbres, sur, je sais pas, moi. Sur la vie, sur l'amour, sur l'écologie. Il y a des choses à raconter sur l'écologie, vous.
Parce que ça, en principe, la feuille d'érable champêtre, il n'y a pas de souci.
Ah, bah allez.
Ah, regarde-moi ça.
Oh là là.
Hein, ça mange pas des feuilles, les cochons, regarde-moi ça. Ah bah, et ça, ça fait pas du bon jambon. Là, tu peux manger le gras, là, t'as pas de problème. Là, c'est bon pour le cerveau. T'as tout ce qu'il faut, là, les acides aminés, il y a tout qui fonctionne, là. Regarde. Oh, les feuilles d'érable, on leur donnera des coins. Regarde, les cornes vont tomber, les poires. On va ramasser les bonnes, les poires qui sont un peu abîmées, pourries. Les cochons, toutes les cornes, c'est pour eux. Et puis tout va bien comme ça. Voilà. Hein.
Alors si on se retourne, on voit aussi donc des vignes, là un peu plus loin. Les gens ne vont pas comprendre, ils vont se dire, si on met des arbres dans les vignes, il va peut-être y avoir moins de rendement, ça va peut-être se développer différemment.
Oui, on enlève un rang tous les 12 rangs, c'est pas un problème, on le replante ailleurs, sauf que l'arbre il va amortir le très chaud, le très froid, l'orage, la pluie. Un arbre c'est un créateur de sol, hein. Un arbre ça crée du sol, ça pousse avec rien, hein. Vous avez peut-être vu, ça a besoin de rien, pas besoin de binage, pas besoin d'arrosage, pas besoin de compost, pas besoin de fongicide, ça a besoin de rien pour pousser. Donc l'arbre il va amener de la matière organique, il va amener des auxiliaires, il va amener une protection climatique, une régulation. Donc des fois il vaut mieux perdre un petit peu et mettre ailleurs que tout perdre.
On a toujours dit qu'on vivait sur Terre avec de l'eau, on va dire même de l'époque, on va dire des dinosaures, et qui était recyclée. Donc ça, c'est le grand cycle de l'eau. Qu'est-ce que l'on est en train de découvrir et qui est extrêmement révolutionnaire?
Ah, le livre d'Ernst Zürcher, oui. Ça, on rend compte qu'à chaque fois qu'on produit un kilo de bois, il y a 400 grammes d'eau nouvelle qui apparaît sur cette jolie terre.
Ça, c'est incroyable, parce que les gens vous disent...
Alors, il faut être prudent, il faut arrêter de dépenser les énergies de façon totalement déraisonnable, mais ça veut dire aussi que ça nous permet de relativiser, parce qu'imaginons une trogne chère à Dominique Mention, une trogne, ça ne s'arrête jamais de pousser, donc dans un monde fini, on a quand même un potentiel de pousser de plus en plus et de faire de plus en plus de biomasse et de biodiversité indexée, et à chaque fois, on ramène de l'eau. D'ailleurs, il suffit de voir les arbres qui poussent sur les plateaux calcaires extrêmement difficiles, qui continuent de pousser l'été alors qu'il ne pleut pas pendant des mois. Ces arbres, au-delà de leur champ mycorhizien, de leur façon d'aller pénétrer les interstices très profonds et très loin, ils produisent leur propre eau, ils la rendent disponible, ils l'injectent dans l'atmosphère.
C'est ça la nouveauté,
c'est-à-dire
qu'ils produisent leur propre eau. Et donc on pouvait éventuellement avoir donc cette intuition, parce que là il y a des gens qui vont découvrir ça et qui vont dire, mais attendez, non, c'est pas possible. Ça a été scientifiquement prouvé.
Et c'est pour ça qu'on l'a publié, c'est pour ça qu'on a accompagné la publication de ce livre. Vous aviez une campagne dans laquelle il y avait des bois, on enlève les bois, il y avait une rivière qui coulait, vous enlevez les bois, la rivière ne coule plus. Vous voyez, vous le savez peut-être, mais du bois de cœur, c'est composé à 99,8% de prélèvement atmosphérique. L'arbre, il crée le sol et il remet en circulation. C'est-à-dire que l'arbre, c'est composé du truc qui nous emmerde le plus au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire le gaz carbonique. Quoi. On fait un matériau noble sur lequel on vient de voir un plancher magnifique à l'heure. Oh. Ça nous met de bonne humeur, ça nous met à l'aise, on réussit mieux les examens, les gosses. Vous prenez deux salles de classe, une en polystyrène et en plastique, une en matériaux nobles qui s'appelle le bois, et vous avez une différence de 20% de réussite supérieure aux examens dans la salle de classe qui est en bois. Et c'est systématique, et c'est vérifié, c'est avéré, et aujourd'hui c'est publié, et il était temps.
Ah bon, on va se faire des présentations là maintenant.
Ah ben si tu veux, pas de problème.
Bah oui.
Tu veux que je te présente après ces cochons, je te présente Nicolas Petit, l'heureux propriétaire, fermier bio de la ferme en coton avec Anne-Catherine, agroforestier convaincu et convaincant, je crois, enfin pose-lui la question.
Vous êtes tombé dans l'agroforesterie, on va dire petit, ou bien c'est au fur et à mesure que ça s'est passé?
Déjà, je suis tombé dans l'agriculture un peu après d'avoir été petit.
Oui.
Et par contre, en tombant dans l'agriculture, en fait, on a acheté cette ferme en 2001, on va fêter nos 15 ans dans quelques jours. Notre histoire a commencé comme ça il y a donc bientôt 15 ans, en plantant des arbres pour nos volailles. Et au bout du compte, on a planté en 15 ans 6 km de haies, 20 hectares d'agroforesterie. Donc les arbres au service de mes animaux et au service de mes plantes, de mes végétaux.
Comment vous évaluez les bienfaits de cela?
Regardez, il fait beau aujourd'hui, vous avez de la chance, on est dans le Gers, magnifique soleil. Où est-ce qu'on est? À l'ombre d'une haie.
Exact.
On ne serait pas resté à 1,50 m plus loin, en plein cagnard.
Non, non.
Vous imaginez bien que les cochons, les volailles, les moutons, les végétaux, toute la faune, toutes les auxiliaires de culture, toute la petite faune aiment être à l'ombre.
Oui.
Donc c'est aussi pour ça qu'on a planté sur ces 40 hectares toutes ces haies et ces arbres. C'est en fait un outil pour amener du bien-être. Et pour moi, qui suis en plus en agriculture biologique, en élevage évidemment de plein air et tout ça, le bien-être animal, c'est mon principal souci. Et l'arbre, c'est pour moi le meilleur partenaire du bien-être animal.
Et alors vous, Nicolas Petit, en fait, vous en sortez. Vous arrivez à vivre de ça avec ce système-là.
On vit très bien ce système. On est plusieurs sur la ferme, sur un modeste 60 hectares. avec une diversité aussi importante des activités qui viennent se compléter. Je pense aussi que l'agriculture aujourd'hui, elle s'est spécialisée. On fait des céréales, point. On fait de la volaille, point. On fait... Non, ici, vous trouvez, je pense que vous l'avez senti en arrivant ici, on sent en fait un équilibre. Et on le sent...
On est accueilli par les ânes.
Voilà.
Déjà, il y a les ânes.
Il y a des ânes pour accueillir. Et tous les espaces, en fait, d'une ferme, et ils sont différents, les espaces d'une ferme, quels qu'ils soient. On va être sur un coteau, il va se passer des choses. On va être en un bas-fond, il va se passer autre chose. Et nous, ce qu'on a essayé sur cette ferme, en fait, c'est d'apporter un équilibre végétal-animal sur l'ensemble de la ferme. Il faut arrêter de trop se spécialiser parce que, en fait, chacune de mes productions vont venir compléter une autre. Sur un parcours, après les moutons, on passe un âne ou des ânes. Ils ne vont pas manger la même chose que les moutons. Donc voilà, chaque espace peut être colonisé de façon différente. Moi, ma recherche avec tous ces arbres, ces animaux différents, ces végétaux, c'est la quête de la biodiversité, de la diversité. Si on met de la diversité, on n'a pas de maladie. Je ne traite jamais mes animaux. Ouais. Je ne traite pas mes animaux, quoi. Et ça surprend des gens, parce que je fais quand même 10 000 volailles par an sur des petites cabanes de 500. Je n'ai jamais traité d'animaux parce qu'il n'y a pas besoin. Entre les rotations et les espaces, il n'y a pas besoin.
Ah, et puis là, Nicolas, quand même. Nos futurs poulets dans l'assiette, hein, qui sont là, en liberté.
Bah oui.
Ça va être quoi? Ouh, là, il y a les plus gros. On fait du chapon aussi,
on fait du chapon, on fait de la poularde, on fait de la pintade, comme on dit par ici, on fait du poulet. On essaye d'offrir une gamme à nos clients de ce qu'on peut trouver en volaille. Il y en a également des œufs.
Et alors, leur durée de vie, c'est quoi? C'est 90 jours, c'est quoi?
Non, c'est plus que ça encore.
Oula.
On dépasse les 100 jours. Alors, je m'interdis d'abattre une volaille avant 100 jours, ce qui est primordial. Il faut savoir que le poulet label est à 81 jours. Nous, on va jusqu'à plus de 100 jours. Et ça, c'est important parce que la qualité de la volaille se fait aussi par la durée d'élevage.
Les 100 jours, ça me rappelle quelque chose d'un point de vue historique. Enfin, là, c'est pour le poulet, donc c'est leur durée de vie.
Quand on prend le temps d'élever les animaux, le muscle attend de se faire. Quand on a quelque chose dans la poêle, il n'y a pas d'eau. Et on a le gras qui se fait avec le temps, qui est un gras tout à fait comestible et qui se met en fait dans le muscle et qui va apporter ses saveurs, sa tendreté, sa jolie couleur et le fait que ça ne fonde pas dans l'assiette.
Et même l'odeur de la paille, elle sent bon.
Alors, on rentre dans la grange. Donc, alors, ils sont à l'intérieur pour deux raisons. C'est que d'abord, on souffre de chaleur. Ouais. On n'a plus d'herbe dans les champs, ou plus beaucoup. Et ensuite, là, j'ai des agneaux qui sont à l'engraissement. Donc, les agneaux, c'est pareil. Ici, on prend le temps de les élever et on les engraisse. C'est-à-dire qu'on va leur amener un petit complément de céréales pour qu'ils aient la qualité gustative, le gras qui va bien et une bonne finition.
Ah, ben là, on arrive, Nicolas, vers un groupe.
Voilà, oui.
Racontez-nous.
Ma femme, Anne-Catherine, fait de la médiation animale, c'est-à-dire qu'elle utilise l'animal et tout cet espace qu'on a vu d'arbres et de biodiversité, en fait, pour apporter à des groupes en situation de handicap des apaisements, du plaisir.
Ouais. Voilà. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Eh ben voilà.
On vous explique ce qu'on a fait?
Ah oui, nettoyer le box.
Toi, t'as nettoyé le box et toi, t'as fait quoi?
Lapins.
Les lapins, tu t'es occupé des lapins. Et là, où est-ce qu'on va avec... Toi, t'as vidé le fumier des cochons. Non, t'as pas fait ça, et n'importe quoi. On va faire quoi?
Des pommes aux cochons.
On va donner les pommes aux cochons, super. Et Domi, t'es prête?
Oui.
Allez, on y va les gars, on y va.
Et puis Anne-Catherine, il y a quand même aussi l'animal emblématique qui est l'âne. Hein.
Ouais, il y a l'âne. Hey. Elle est là.
Cali.
Cali.
Et c'est un bon médiateur, ça, l'âne aussi.
C'est un super médiateur, mais ce n'est pas le seul médiateur.
Il y en
a plein d'autres à la ferme. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler avec plein de médiateurs différents qui motivent et qui stimulent. Ramasser les pommes qui sont des pommes tombées de l'arbre, qui n'ont pas mûri, qui sont gâtées, c'est pas hyper motivant, mais c'est super motivant d'aller les donner aux cochons, de voir que les cochons sont contents. Et c'est vraiment un boulot qui motive et qui valorise tout le monde.
On entend souvent l'agriculture déprimée. On entend les agriculteurs qui râlent, sont pas heureux. Nous, dans le métier qu'on fait, on est super heureux. Mais pourquoi est-ce qu'on est heureux? Je pense d'abord qu'on fait une production de qualité. Donc on a ce plaisir-là de faire une production de qualité. On a la reconnaissance des gens. On travaille en direct, on fait de la vente directe sur un marché et à la ferme. On voit nos clients, on partage, on fait parfois des événements ici. On aime beaucoup le cirque, on fait des événements qui tournent autour de l'animal et du cirque. Et donc en fait, c'est un ensemble. Moi j'ai donné aujourd'hui, qui vient de la grande distribution avant, j'ai donné aujourd'hui un sens à ma vie professionnelle. Tout cet équilibre qu'on trouve ici, et comme tu dis, qui finit avec le social, avec les gens qu'on accueille et avec lesquels on partage des vraies choses. Ouais. Voilà.
Bon, c'est marrant parce qu'en fait, vous avez dit la grande distribution, c'est que le système, on va dire, des années 60, ça a été la voiture, le frigo et la grande distrib. C'était ça, en fait. Ouais. C'est ça, ce système-là, c'est les trois piliers. Et puis, vous y avez réfléchi, vous avez dit, normalement, stop, je ne peux plus.
Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut faire autrement? On a trois enfants qui aujourd'hui ont 22, 20 et 17. On avait aussi envie de vivre les choses avec eux. Sur une ferme, on les vit avec eux. Il y a quelques corvées, mais bon, les corvées aussi sont intéressantes.
C'est salutaire.
Oui. C'est salutaire. Et aujourd'hui, je vois que j'ai des enfants qui sont très autonomes dans leur début de vie étudiante. Et voilà, donc nous, on a essayé d'aller vers quelque chose qui nous ressemblait. Et c'est aussi la force d'une ferme, et je pense que certains l'ont oublié, c'est qu'en fait, on y fait aussi ce que l'on choisit de faire. Voilà.
Mais
j'ai pas de patron.
On ne subit pas les choses.
On ne subit pas. On fait avec et on construit autour aussi de ce que l'on est soi. Vraiment, la ferme est un support pour se révéler soi.
Je pense que ça fait du bien d'écouter des gens qui ne sont pas déclinistes, des gens qui ne sont pas forcément déprimés, des gens qui avance avec les difficultés de la vie, qui ne nie pas une seconde, mais voilà, il y a quand même des moyens de faire un peu autrement. C'est un peu quand même la colonne vertébrale, si vous voulez, de cette émission depuis un certain nombre d'années. Donc grand merci à Alain Canet, donc le directeur de Arbres et Paysages 32, là où est née donc l'agroforesterie, Nicolas Petit, sa femme Anne-Catherine, Jacques Delozo, et à toutes ces et ceux. Et une fois de plus, ça concerne absolument tout le monde. Lui, il était bio, mais d'autres ne le sont pas, peu importe. Ça concerne tout le monde. Voilà, aujourd'hui, cette histoire d'agroforesterie avec les limites dont on a parlé. Et alors, on a quand même un certain nombre d'exemples très intéressants, Frédéric Denré, aussi dans ce domaine.
Oui, il y en a plein qui ont été évoqués l'autre jour aux rencontres nationales sur l'agroforesterie au ministère de l'Agriculture. Il y a eu plein d'exemples. Il y a celui de Julien Pierre, par exemple, qui est agriculteur, qui est éleveur dans le Limousin, en Haute-Vienne, qui a acheté des vaches en 2005, puis des poulets. Les poulets, ils voulaient la belle rouge. Pour les avoir, la belle rouge, il fallait que les poulets aient de l'ombre. Et donc, il a utilisé les arbres qu'il avait, il en a replanté. Et en utilisant les arbres qu'il avait, en replantant des arbres, des châtaigniers, s'est rendu compte de plein de choses. Un, effectivement, ça faisait de l'ombre. Deux, il récupérait les châtaignes qui sont d'un excellent rapport en vente. Trois, au fur et à mesure de la croissance des arbres, il les a coupés. Et puis, la vente du bois était aussi d'un excellent rapport économique. Et puis ensuite, il s'est aperçu que derrière, sous ces arbres, à l'ombre de ces arbres, poussait une herbe toute l'année qui évitait d'aller acheter du foin pour nourrir les vaches. Pour tailler cette herbe, il a arrêté le tracteur. Il a utilisé des brebis qui vivent tranquillement leur vie avec les poulets. Et puis, cerise sur le gâteau, les arbres aujourd'hui sont tellement hauts qu'ils empêchent les buses ennemies volatiles des poulets de s'abattre sur les poulets. Et donc lui qui est un agriculteur conventionnel, qui n'est pas bio, qui est arrivé à l'agroforesterie comme ça par hasard, par un calcul économique, est aujourd'hui un des principaux défenseurs de l'agroforesterie et gagne très bien sa vie, il me l'a dit, il me l'a redit en faisant de l'agroforesterie.
En Haute-Vienne, comment il s'appelle, vous disiez ?
Il s'appelle Monsieur Pillard, Julien Pillard.
Voilà. Et donc, si nous partons en Ariège...
Si on part en Ariège, là c'est une association de paysans qui s'appelle l'association Bois Paysans, qui ne savait pas quoi faire de la coupe de ces arbres, de la coupe de ces arbres de bocage. Ils ont trouvé une filière, c'est-à-dire que ils transforment tout ça en bûchettes et en charbon de bois. Ils mettent tout ça dans des petits sacs. Sur les sacs, ils mettent un petit logo, Bois Paysans, bois qui vient d'ici, et c'est un succès en grande distribution. Ce sont eux qui vendent l'essentiel de ce que vendent les supermarchés locaux, et ça fait vivre la filière, et ça fait vivre ces agriculteurs.
Rien à voir avec le bûcher de Montségur, non, c'était pas eux, donc à l'époque.
Je crois pas non plus. Non, je crois pas. Faut vérifier.
On va poursuivre le voyage, mais on le poursuit d'abord avec vous, avec les messages 01 56 40 40 35.
Bonjour, je suis heureux de vous présenter Les Toiles Filantes, un festival de cinéma jeune public qui se tient tous les ans à Pessac, en Gironde. Cette année, Les Toiles Filantes sont consacrées à la merveilleuse nature. Certains de ces films sont des classiques, comme Bambi ou Mon voisin Totoro. D'autres, au contraire, sont de véritables découvertes, comme le magnifique La Vallée des Loups, qui sera accompagné par son réalisateur Jean-Michel Bertrand. Les Toiles Filantes, c'est à Pessac, en Gironde, du 27 février au 5 mars. Merci, on vous attend très nombreux.
Demain dimanche, les villes de Sceaux et de Bourg-la-Reine organisent leur premier festival du film « Société en transition ». Découverte de 3 films à 11h, « Regard sur nos assiettes ». À 14h, « Nouveau monde ». Et à 17h, « Qu'est-ce qu'on attend ?». À 15h, une table ronde avec Pierre Bécu, Yann Richer, Marie-Monique Robin. Ils nous transporteront en 2027 de l'idée à l'action avec un focus sur l'alimentation, l'agriculture urbaine et de proximité, l'éducation, les modèles économiques.
Voilà, donc à Bourg-la-Reine et à Sceaux. Et moi, je vous retrouverai d'ailleurs aussi à 15h, donc à Sceaux, dans cette salle du Trianon, pour interroger les différents partenaires et intervenants plutôt. Et alors, sinon, l'émission du 7 janvier dernier, donc il y avait Jean-Michel Bertrand, justement, avec sa vallée des loups. Encore un autre appel ? Oui, on y va.
Bonjour à tout le monde. Eh bien, voilà, l'association Follavoine organise sa 9e fête sans OGM à Avignon le 25 et 26 février 2017. Le titre de cette 9e fête, ce sont Nouveaux OGM, l'arnaque continue. Nous invitons cette année Jean-Luc Jutier et Yves Berthaud, qui sont deux démissionnaires du Haut Comité aux Biotechnologies. Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, à AgroParisTech, à Sciences Po. Jacques Apla, qui est agronome et anthropologue, fondateur du réseau Semences Paysannes. Kevin Morel, qui a fait une étude sur les micro-fermes. Nous aurons aussi des paysans locaux, notamment ceux qui vont être installés à la ferme expérimentale de la Durette, qui va travailler en agroécologie et qui constituera un lieu où on expérimente les alternatives aux pesticides pour montrer que c'est possible.
Elle nous l'a dit un peu vite, c'est donc l'association Follavoine, donc c'est à Avignon. Voilà, là aussi, un monde qui bouge, un monde qui change, un monde en marche. Et là, on change de registre. Hein. Non, c'est pas du tout les mêmes sons que du côté du Gers. On va aller du côté de Marie-Galante. Autrement dit, d'abord, on salue nos amis des Antilles en général, de la Guadeloupe en particulier, parce que vous avez donc cette île qui est au large de la Guadeloupe, à peu près une trentaine de kilomètres. Et ce lieu donc était un lieu sucrier qui fabriquait donc du rhum. Et on va faire qu'est-ce qui se passe en matière d'énergie renouvelable ici à Marie-Galante. D'ailleurs, avec une polémique locale assez solide.
Oui, mais qui est très révélatrice de toutes les contradictions liées aux énergies renouvelables. Effectivement, bon, on est dans les Antilles. Les Antilles dépendent totalement du charbon, alors qu'il y a du soleil, qu'il y a de la houille, qu'il y a tout ce qu'il faut pour être indépendant énergétiquement. Puis en termes d'émissions de carbone, si vous voulez, c'est un peu la Chine et l'Inde, hein, les Antilles. Voilà. Et
donc, on a c'est balèze, c'est ça que vous voulez dire.
Ça pousse. Ouais, voilà, c'est du charbon et du fioul, hein, pour l'essentiel. Et donc, Marie-Galante vit sur une filière sucrière qui marche pas très très bien. Marie-Galante, hein, pour fixer les idées, c'est la surface de Narbonne. Et donc, le but, c'est d'avoir l'autonomie énergétique. Et là, il y a deux options différentes. Ou bien, quand vous avez 100 de consommation mais 20 possibles de ressources, vous arrangez pour produire un maximum avec ces 20 de ressources, et puis a priori vous devriez obtenir, vous jouez sur la baisse de la consommation. Ou bien alors, vous n'avez que 20 de ressources, donc vous utilisez ces ressources
au maximum,
et puis vous importez ce qu'il vous faut, hein, en énergie renouvelable pour atteindre ce qui est consommé chaque année. Et bien voilà, l'option elle est entre les deux. Ou bien on crée, adossé à l'usine sucrière, on crée une usine électrique à partir de la bagasse, c'est-à-dire les déchets
de la
canne à sucre, une fois qu'on l'a broyée. Et puis, on fait le complément en important du bois sous forme de pellets, hein, en important du bois qui vient du Canada et du Brésil.
Et du Brésil, oui, parce que pas au niveau empreinte écologique, c'est pas terrible. Quoi, donc.
Là, on n'est plus dans l'esprit de la transition énergétique, on est plutôt à la lettre. Ou bien alors, on n'utilise que cette bagasse-là et on adosse ce projet avec des fermes éoliennes. Il y en a déjà deux belles à Marie-Galante et puis le développement des panneaux photovoltaïques. Donc, il y a deux choix politiques qui correspondent à deux visions complètement différente de la transition énergétique, en tout cas dans le premier projet qui dépendrait de l'importation de bois.
C'est un choix capitalistique. Là, quand
même. C'est un choix capitalistique pur, mais c'est surtout un choix qui tue dans l'œuf toute idée d'autonomie énergétique.
Ça, oui.
Certes, l'autonomie n'est pas l'indépendance, mais troquer la dépendance envers le pétrole et le charbon pour une dépendance envers du bois, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc les communes semblent se destiner vers un projet, un peu comme sur l'île de Sein, si vous savez, Denis, un projet communal aller sur un
qui a
projet
qui a été bien verrouillé par EDF, faut le dire, qui maintenant effectivement
change son fusil d'épaule. EDF va changer son fusil d'épaule sur Marie-Galante. Donc si on veut, ça revient à la discussion qu'on a eue la fois passée. Si on veut arriver vers l'autoconsommation, ben, faut finalement pas produire trop de façon à ce que l'on soit incité à économiser sa consommation d'énergie. En tout cas, c'est un laboratoire passionnant ce qui est en train de se passer à la Régalette.
Tout est en train de bouger. Merci beaucoup, cher Frédéric Denry. La semaine prochaine, d'ailleurs, on continuera aussi à parler d'agriculture parce que quand même c'est important. Hein. Donc il y aura Olivier de Schouter, donc qui sera avec nous, donc un homme qui connaît bien l'agriculture dans le monde entier. On fera donc un point avec lui. Sans doute que vous serez là aussi, Frédéric. Enfin voilà, et on aura d'autres exemples avec ceux de la Fondation Carasso. Merci à Kevin Pelot, Pauline Laverdure, à Sacha Trop qui a mixé. Très bien, ce reportage donc dans le Gers avec bien sûr Xavier Pestugia qui le réalisait, qui a colorisé et qui a choisi les musiques. Camille Blanès, notre assistante. Merci à Albert Hook, Muriel Pérez qui a choisi les disques. Anne Gouzon donc qui nourrit les sites. Et puis bah vous avez une rediffusion entre 5h et 6h du matin si vous avez une petite insomnie, hein, ouais, demain matin. Le podcast, je vous abonner. Et puis bah là tu lis mon petit loup. Ce sera 19h54 après les petits bateaux. Je vous souhaite une bonne route, je vous souhaite une bonne rentrée, un bon départ. Enfin bref, un excellent week-end quoi qu'il arrive.
CO2 mon amour avec le WWF. Agissez pour préserver les ressources naturelles de notre planète. Plus d'infos sur les dons, legs et assurances vie sur www.wwf.fr.